Cette semaine, l'émission Art Interview vous emmène au pays de l'illustrateur du 19e siècle, Gustave Doré, un immense nom de la peinture et de l'illustration avec une activité foisonnante à l'époque. Et c'est l'historienne de l'art Alix Paré qui nous en parle au micro de Stéphane Dubreuil.
Bonjour à toutes et à tous, et je suis heureux de vous retrouver pour ma nouvelle présence dans cette rubrique Art Interview. Je suis avec Alix Paré, la co-autrice d'un livre absolument fantastique, d'ailleurs c'est son titre, Fantastique Gustave Doré, publié par les éditions du Chêne. Vous l'avez écrit avec Valérie Sueur-Hermel, conservatrice à la Bibliothèque Nationale. Avant de parler de Gustave Doré, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes ?
Alors, bonjour, donc moi je suis historienne de l'art, je suis conférencière et j'écris aussi des livres, notamment aux éditions du Chêne. Et je suis spécialiste de peinture occidentale du XVIIe siècle à nos jours et passionnée par la littérature, d'où la rencontre avec Gustave Doré.
Voilà, c'était ma question, parce qu'en lisant ce livre qui est absolument magnifique, déjà l'objet en lui-même est somptueux, là vous avez eu la chance d'avoir une fabrication hors norme pour ce genre de livre, une couverture gaufrée, les tranches sont dorées, les tranches sont imprimées, la qualité de l'impression est vraiment exceptionnelle. Avant de parler de l'œuvre de Gustave Doré, est-ce que vous pouvez nous dire en plus que quelques mots, parce que c'est un artiste absolument immense, qui est Gustave Doré ? À quel moment il a vécu, quel était son milieu?
Alors Gustave Doré, donc c'est un illustrateur, mais c'est aussi un peintre et un sculpteur, un graveur. Donc c'est un artiste très complet qui a vécu au 19e siècle. Il est né en 1832 et il est mort en 1883. Donc il a une vie assez courte, il meurt à 51 ans. Et malgré ça, il a livré plus de 100 000 dessins au cours de sa carrière. Et en tout cas, on a conservé plus de 10 000 illustrations de livres, ce qui est absolument colossal. Il vient d'un milieu bourgeois de province. Il est né à Strasbourg et puis ensuite, avec sa famille, il a vécu dans la région lyonnaise. Et c'est un artiste qui s'est très tôt intéressé à la littérature. Et à 11 ans, par exemple, il avait déjà l'idée d'illustrer la Divine Comédie de Dante, ce qui est très peu commun, parce qu'on est en sixième généralement.
Mais peu d'enfants de 11 ans qui ont lu la Divine Comédie.
Oui, non, mais c'est absolument incroyable. Et du coup, à 14-15 ans, il commence à faire des dessins, des caricatures. Et il est très volontaire, il est très ambitieux aussi. Il va démarcher des patrons de presse à Paris à 15 ans. Et il se fait embaucher par un des plus grands journalistes de l'époque, enfin fondateur de journaux de l'époque, qui s'appelle Charles Philippon. Et il vit de son dessin à l'âge de 16 ans, ce qui est assez remarquable.
Alors, ce qui est remarquable, c'est la qualité de son dessin, même très jeune. Il y a quelques exemples dans le livre. Où a-t-il appris à dessiner ? Est-ce que c'est un don absolument insensé ? Ou est-ce qu'il a été dans une école de dessin ? Est-ce qu'il a suivi des cours de dessin ? Est-ce qu'il a des maîtres ?
Il n'a pas un maître précis, il n'a pas un mentor précis, mais évidemment, c'est un artiste qui, en fait, il est très pétri de toute la culture traditionnelle de la peinture. Il va énormément s'inspirer de Delacroix, de Ingres, il observe tous les romantiques. Mais sinon, c'est un jeune homme qui très tôt commence à dessiner. À 5 ans, il noircit tous ses cahiers d'écoliers, il les illustre, il fait ses premières caricatures, il est au collège, enfin, très très jeune, il est surdoué du dessin. Il a cette capacité à croquer les personnages de Bourg-en-Bresse, quand il habite à Bourg-en-Bresse avec ses parents par exemple, et à en faire des petites caricatures très enlevées. Donc voilà, c'est un jeune prodige du dessin, et ses parents le soutiennent dans cette démarche-là et lui permettent d'aller à Paris tout seul à 16 ans pour vivre. Et ensuite, c'est sa famille qui le rejoint à Paris, alors qu'il vit déjà tout seul pendant quelques semaines, quelques mois à Paris.
Comment va-t-il commencer à faire ces illustrations qui sont à la fois merveilleuses, inquiétantes, très troublantes ? À chaque fois qu'on tourne une page, on est stupéfait par la capacité à la fois d'invention graphique, mais aussi d'invention des cadrages, d'invention des points de vue. Comment va-t-il commencer à illustrer la grande littérature qu'il aime beaucoup, visiblement?
Oui, en fait, très tôt, il ambitionne d'illustrer la grande littérature. Au départ, son ambition, ce n'est pas d'être caricaturiste dans la presse. Ça vient parce que c'est rémunérateur, parce qu'il a envie de se faire connaître et de démarrer. Mais quand il peut vivre de l'illustration, et puis ensuite, son ambition, c'est aussi de vivre de la peinture, il abandonne la caricature. C'est un grand romantique. Hein. Il est baigné par toutes les histoires, les contes et légendes, notamment de l'Est de la France. Et il raconte dans ses journaux, dans ses écrits, qu'il laisse un peu pour la postérité, en espérant qu'il y aura des biographes qui le reprendront, ce qui va être le cas, que les paysages de la région de Strasbourg, les Vosges notamment, les forêts avec des grands sapins, les maisons à colombages, l'aspect un peu médiéval des châteaux en ruines de l'Alsace, que ça, c'est vraiment son terreau. C'est le point de départ de son imaginaire, quoi. Ce sont des paysages qu'il trouve, lui, fantastiques, qu'il trouve merveilleux, où on a l'impression, quand on est dans les forêts avec de la mousse au sol et des grands sapins, qu'il va y avoir des elfes et des lutins qui vont surgir. Et c'est sa première source d'inspiration. Ensuite, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui va être c'est un grand sportif. Gustave Doré, il va beaucoup faire de randonnée et en montagne, en haute montagne. Il va beaucoup parcourir les Alpes, mais aussi les Pyrénées, et il va être très inspiré par l'aspect grandiose de la nature. La nature est une source d'inspiration très importante pour lui.
C'est une chose que moi j'ai découvert dans ce livre, ce que je connaissais, donc les Chabotais, Pantagruel, ces images qui sont devenues des icônes de la culture française en tout cas, même je pense oui. Européenne et même mondiale. Mais j'ai découvert qu'effectivement c'était un paysagiste, là aussi exceptionnel. Bon, on est tout le temps en noir et blanc parce qu'on est sur de la gravure, mais chaque paysage, dans toutes les images, il y a des paysages et on est plongé littéralement dans des paysages. Souvent, les humains ou les animaux sont très petits et on est littéralement dévoré par la nature.
Oui, il a vraiment cette idée du sublime. Le sublime, c'est un concept romantique qui naît dans les années 1780, et qu'on trouve par exemple chez Turner, ensuite au début du 19e, que la nature, elle est à la fois magnifique et dangereuse. Et donc ça, c'est une idée qui est très présente chez Gustave Doré. L'homme est tout petit face aux éléments naturels. Il est petit face aux montagnes, mais aussi face aux tempêtes en mer, face aux orages, face au vent qui souffle très fort. Et donc très souvent, on a dans ces illustrations soit des immenses vagues qui emportent des bateaux, soit des forêts aux troncs d'arbres démesurés, on ne voit pas le sommet. Et on a soit des toutes petites biches ou des petits cerfs dans la nature, soit des très, très petits personnages comme ça qui sont presque insignifiants par rapport à la puissance de la nature.
Ouais. Et on a même l'impression, quand il illustre Atala,
Chateaubriand,
oui. Que c'est quasiment uniquement un prétexte pour dessiner des paysages américains qu'il, évidemment, n'a jamais vus, mais évidemment qu'il fantasme complètement, et que là, l'histoire et les personnages sont très accessoires. On a vraiment l'impression qu'il a envie de nous embarquer dans un monde fantastique.
Ah oui, les illustrations d'Atala, elles ont ensuite inspiré le cinéma pour des films qui mettent en scène des cités perdues, qui se rapprochent plus de films d'explorateurs, mais pas du roman de Chateaubriand. Il est très fort, en plus, du Gustave Doré pour illustrer des endroits, comme vous l'avez dit, où il n'est jamais allé. Et finalement, on trouve beaucoup dans sa vision de l'Amérique, qui est une vision imaginaire, une sorte de version exagérée de ce qu'il a vu dans les Pyrénées et dans les Alpes. Mais le voyage aux Pyrénées est vraiment très formateur parce qu'il va voir des cascades, des très hautes montagnes, des éboulis et des failles dans des roches, etc. Et il va l'agrandir pour imaginer le Nouveau Monde. Il ne va pas le faire que pour Atala. Il y a d'autres exemples moins connus d'illustrations du Nouveau Monde. Mais donc, il y a absolument jamais mis les pieds. Et c'est vrai que le roman devient parfois un peu un prétexte. En tout cas, il décolle quoi, par rapport au texte. Ça, c'est sûr.
Ce qui est fascinant, c'est que nous, maintenant, on connaît évidemment à quoi ressemblent les paysages américains, mais que les paysages de Gustave Doré ne nous paraissent pas totalement fantaisistes. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Alors, je ne sais pas si c'est mon imaginaire qui se greffe sur celui de Gustave Doré ou si, au final, c'est lui qui a tellement fécondé notre culture visuelle qu'on y croit sans problème.
Oui, il y a un peu une sorte de jeu d'aller-retour. Gustave Doré avait quand même une documentation photographique. Hein. Il y avait quand même la photo qui existe à son époque, en noir et blanc bien sûr, mais dès son début de carrière, quand il est encore journaliste, enfin dessinateur pour la presse, mais pas dans la caricature, vraiment du dessin de presse, il couvre par exemple la guerre de Crimée, il ne se rend pas en Crimée du tout, il couvre la guerre d'indépendance d'Italie, il ne se rend pas en Italie à ce moment-là, parce que ce sont les conflits, mais il va se documenter avec des photos en noir et blanc, donc pareil pour plusieurs sites qu'il dessine, mais ensuite les réalisateurs de films américains ont repris des cadrages et des points de vue de Doré pour filmer leur propre pays. Donc, il y a une sorte de ping-pong visuel, et c'est pour ça qu'il y a une impression que ce n'est pas si loin de la réalité, parce que la réalité s'est aussi un peu adaptée au dessin de Doré, dans un sens. En tout cas, on a filmé le réel avec des points de vue qui nous rappelaient les cadrages de Gustave Doré.
L'autre chose qui frappe énormément dans ce livre, et ça, c'est présent dès la couverture, c'est l'irruption du fantastique dans tout le travail de Gustave Doré, même dans des scènes totalement anodines, des scènes très, très calmes, il y a toujours quelque chose d'inquiétant. Ça, c'est quelque chose de très frappant. D'où ça lui vient, au-delà du... Est-ce qu'il y a autre chose que l'image romantique de la nature, de tout ce qu'on peut imaginer?
Je pense pas qu'il y ait que l'inquiétude, parce qu'il a aussi une veine comique, Gustave Doré. Ce que je mettrais en avant, c'est plus un aspect spectaculaire et un aspect onirique. Et c'est quelqu'un qui aime énormément le spectacle. C'est-à-dire, il va au théâtre, il va à l'opéra, et il est en couple uniquement avec des femmes qui sont des femmes de spectacle. Et je pense que dans sa vie personnelle, ça infuse. Il est en couple avec des cantatrices qui sont très en vue. Il est en couple à un moment avec Sarah Bernhardt aussi, ce qui est très peu connu, mais quand même, elle était très jeune à l'époque, puisqu'on est encore au 19e siècle. Et puis, parmi ses amis, par exemple, vous avez Richard Wagner, Rossini, Camille Saint-Saëns, qui sont tous des metteurs en scène, des musiciens, des compositeurs d'opéra. Et lui-même, il chante dans des soirées, on le sait pas trop, mais voilà, il a une vie, il adore aller au cirque, voir les acrobates, il marchait sur les mains dans certaines soirées mondaines, Gustave Doré. C'est vraiment un personnage qui aime le spectacle. Donc moi, je vois aussi ces illustrations comme des sortes de décors de spectacle, des décors de théâtre et de ballet et d'opéra. Et cet aspect très mise en scène, c'est pour ça que ça correspond très bien au cinéma, qui n'existe pas encore d'ailleurs à son époque, mais que ça va correspondre au cinéma, c'est cet aspect spectaculaire, quoi.
Oui, ça se voit surtout dans Don Quichotte et dans Gargantua, on est vraiment transporté au cœur de l'action. Et c'est aussi une vision très, je trouve, très nouvelle de ces œuvres qu'on ne connaît plus forcément maintenant, ou en tout cas on les fantasme, mais on les a pas forcément lus. Mais c'est vraiment une vision nouvelle de ses œuvres. On a l'impression de les avoir... Moi, je les ai lus il y a longtemps, donc j'ai des souvenirs. Hein. Alors, je ne sais pas si mes souvenirs sont ceux de Gustave Doré ou si c'est les miens mélangés aux siens, mais il marque ça beaucoup, et on a l'impression d'avoir jamais lu ses livres quand on voit ses illustrations. Il a une puissance d'interprétation qui est vraiment exceptionnel.
En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que les gens qui feuilletteront le livre ont envie de lire les textes. Parce que Gustave Doré, il aime beaucoup ces textes-là. Et comme vous le dites, on les lit peut-être moins aujourd'hui, mis à part si on fait des études universitaires ou littéraires. Voilà, on lit quelques classiques, mais on lit rarement in extenso Cervantes ou Dante, alors qu'en fait, on peut lire des fragments et être complètement emporté par ce texte-là. Et lui, il donne envie de se replonger dans les textes, je trouve, parce que ces images sont tellement puissantes, on se dit, mais est-ce que ça correspond au texte? Et en fait, il y a toujours un point de départ très précis, hein, il exagère en quelque sorte le texte, mais il part du texte. Le lien est quand même très fort. On sent qu'il a vraiment lu, analysé chaque livre qu'il a illustré.
D'ailleurs, dans votre livre, chaque illustration est reliée à un petit morceau du texte d'origine qui correspond à l'illustration. Donc là aussi, on retrouve la magie de ces mots que, franchement, on a quand même beaucoup oublié. Atala ou des choses comme ça, c'est plus des best-sellers de
notre époque.
En librairie. Mais à l'époque, ça l'était. Alors, ce qui est très, je trouve, drôle, c'est qu'au début du livre, il y a une liste de livres qu'il ambitionne d'illustrer.
Oui.
Donc là aussi, il est très jeune. C'est pareil, on se dit, mais comment à cet âge a-t-il pu lire autant de, de livres, de grands chefs-d'œuvre de la littérature, quelquefois des livres assez imposants. Et comment a-t-il pu les comprendre? Comment a-t-il pu avoir envie d'illustrer tous ces livres? Sachant qu'il y a des livres anglo-saxons aussi, il n'y a pas que des livres français, il y a des livres anglais.
Oui, Gustave Doré, très rapidement, il rencontre des Anglais via l'exposition universelle à Paris, et puis il va voyager à Londres très jeune, et il va correspondre avec des éditeurs, etc. Donc il va travailler pour des éditeurs anglais, et parfois éditer des textes qui d'ailleurs ne sont pas traduits en français encore. Hein. Je pense à La Complainte du Vieux Marin, par exemple, qui est un texte qui maintenant est traduit en français, mais qui est un poème anglais romantique du 19e. Donc, il travaille directement à partir du texte anglais. Il cherche la reconnaissance à Londres, en plus. Donc, c'est vrai qu'il a ce côté très international. La liste date de 1855. À ce moment-là, il est jeune, mais bon, il a une trentaine d'années. Donc, il a déjà énormément lu et... Moi, ça ne m'étonne pas tant que ça, dans la mesure où au XIXe siècle, on a une importance des classiques littéraires qui est beaucoup plus marquée qu'aujourd'hui. Et ce que nous, on appelle classique, c'était aussi la littérature contemporaine de ces gens-là. C'était des incontournables, on apprenait le grec, le latin. Il n'avait peut-être pas lu tout Virgile, tout Ovide, mais il avait cette idée que c'était des textes incontournables et il connaissait l'iconographie qui en découle. Tous les peintres du XIXe siècle avaient comme formation en iconographie les grands textes antiques. On connaissait les Métamorphoses d'Ovide pour ensuite faire des tableaux à partir de Apollon et Daphné ou Écho et Narcisse. Enfin, tout ça, c'était des thèmes quand même très connus. C'est vrai que c'est un grand lecteur, mais ce qui est impressionnant, c'est surtout son ambition, en fait. Plus que la quantité de livres qu'il a lus, mais c'est l'ambition de tout illustrer qui est fou. Évidemment, il va jamais réussir à le faire, mais du coup, dans sa liste, il marque « fait » ou « à faire ». Et il va mourir avant d'avoir fait la moitié, hein. Bien sûr. Il aimerait illustrer tout Goethe, tout Lamartine, tout Bocasse, tout Montaigne. C'est fou, les Mille et Une Nuits, Molière, La Fontaine, Racine, tous ces gens-là, il ne va pas les illustrer, il n'aura pas le temps. Mais il va quand même accomplir des chefs-d'œuvre. Les trois grands chefs-d'œuvre, à mon sens, c'est Le Paradis perdu de Milton, L'Enfer de Dante, enfin en tout cas la Divine Comédie, dont L'Enfer de Dante, et la Bible. Là, ce sont des énormes morceaux de la littérature, ou en tout cas de la tradition écrite mondiale.
Pour revenir à son époque, on connaît un très beau portrait de Gustave Doré par Carja. Mm. Le portrait où il y a un peu de profil, un peu debout. Donc Carja, c'est aussi l'ami de Nadar, c'est aussi des gens qui sont amis avec Baudelaire, avec Gérard de Nerval, avec toute cette galaxie de grands poètes qui sont aussi reliés par la culture anglaise, parce que Baudelaire traduit des poèmes anglais, Nerval aussi. Quels sont ses rapports avec tous ces grands auteurs, ces grands génies de son époque?
Alors déjà, le 19e siècle, enfin, à partir de la fin du 18e siècle, la France, elle est un peu dans une anglomanie, c'est-à-dire qu'on aime l'Angleterre, l'Angleterre est à la mode. Si vous pensez à George Sand, par exemple, elle se fait appeler, donc Aurore Dupin, elle se fait appeler George Sand sans E à George, parce que c'est une référence à l'Angleterre, George. Donc on est dans l'anglomanie et on regarde beaucoup l'Angleterre. Delacroix, qui est un des grands modèles de Gustave Doré, il va voyager en Angleterre, à Londres, et c'est là où il va avoir beaucoup de sources d'inspiration. On lit beaucoup Shakespeare, donc il est dans un bain culturel qui correspond à son époque, et il côtoie ces gens-là. Il est ami lui-même avec Nadar, hein. Vous parliez du photographe Nadar, ils sont amis, ils font des soirées mondaines ensemble, c'est le même cercle amical avec justement Camille Saint-Saëns ou Théophile Gauthier, voilà, ce sont des gens qui se côtoient. Il y a beaucoup plus de liens, peut-être par rapport à ce qu'on peut imaginer comme a priori, entre Londres et Paris. Il y a des journalistes qui vivent à Paris, qui retravaillent à Londres, des gens qui temporairement vont vivre en Angleterre, etc. À cette époque-là, au XIXe siècle, il n'y a pas deux pays qui s'ignorent, il y a beaucoup d'échanges artistiques, hein, même si on a des styles très différents. Et puis, par exemple, pendant la guerre de 1870, il y a beaucoup d'artistes français qui vont aller vivre à Londres. Ça va être le refuge. C'est le refuge aussi des impressionnistes. Monet, il part à Londres, Pissarro, les marchands d'art aussi.
Quand on regarde tous ces dessins magnifiques de Gustave Doré, on voit qu'à la fois, il se situe dans l'histoire de l'art qui l'a précédé, mais évidemment dans l'histoire de l'art qui va lui succéder. On a du Gustave Moreau, on pense aussi à Méliès, parce qu'il y a beaucoup de petits détails dans des dessins de Gustave Doré, on se dit ça, Méliès l'a forcément vu et l'a forcément pratiquement recopié, mais aussi je pensais beaucoup à Conan le Barbare, à tous ces, cette littérature gothico-fantastique.
Ah oui, complètement.
Est-ce que vous avez étudié tous ces artistes et est-ce que vous savez comment ils se positionnent par rapport à Gustave Doré?
Alors, Gustave Doré, en fait, il fait un peu une transition unique entre le romantisme et le symbolisme. Effectivement, il s'inscrit dans une histoire de l'art à la fois par ses dessins et puis par ses peintures. En peinture, il a souvent été assez déconsidéré. Il est exactement contemporain de Manet. Et Gustave Doré n'est pas du tout intéressé par l'impressionnisme ou par le réalisme, qui sont des courants très importants avec Courbet, Millet, Daumier, etc. On sait qu'ils se côtoient, il y a des salons, ils savent les uns les autres ce que font Doré et inversement. Il y a pas mal d'écrivains qui sont un peu condescendants envers l'illustration de Doré, hein, et qui pourtant parfois admettent des coups d'éclat. C'est le cas d'Émile Zola. Émile Zola, il est un fervent soutien des impressionnistes et il n'aime pas Gustave Doré, il n'aime pas sa peinture, mais quand il fait des illustrations, il dit quand même que c'est formidable et que c'est presque refaire un livre. Comme quoi, voilà, les gens ne sont jamais complètement ni tout blanc ni tout noir. Donc, il se situe à la fin d'une sorte de mouvement romantique et il enchaîne presque directement avec un symbolisme à la Gustave Moreau, comme vous l'avez dit. Mais en peinture, il va avoir peu de postérité dans l'histoire de l'art. Et ces illustrations, elles vont aussi avoir une énorme postérité dans l'histoire du cinéma, l'histoire de la bande dessinée, et puis le dessin animé, en fait, la naissance du dessin animé, puisque Walt Disney, l'homme, pas seulement la firme, Walt Disney va voyager en Europe, va acheter des livres illustrés par Gustave Doré, et dans les années 1930-1940, quand il va faire les premiers dessins animés qu'on connaît, comme Blanche-Neige, il va reprendre des gravures de Gustave Doré pour faire certains décors. Et ça va enclencher une très grande admiration de tout le milieu du cinéma et de l'animation pour Gustave Doré, qui ne va pas s'arrêter, puisque jusqu'à aujourd'hui, on a des citations de Gustave Doré dans Harry Potter, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Shrek. Enfin, c'est presque incalculable le nombre de citations qui se trouvent. Donc, il fait une sorte de transition entre l'histoire de la peinture et l'histoire du cinéma et du dessin animé. En bande dessinée, il inspire des gens très différents parce que on peut avoir des BDistes qui sont dans le fantastique, dans le côté très héroïque, comme Mathieu Lauffray, l'auteur de la série Raven, et puis John Silver. Mais on a aussi Catherine Meurice qui se réclame de Gustave Doré, qui n'a absolument rien à voir dans son dessin, dans son style avec Mathieu Lauffray. Et Catherine Meurice, elle raconte que quand elle était petite, elle avait dit à ses parents « je veux faire Gustave Doré, je veux comme métier », parce qu'elle avait été fascinée par les illustrations pour La Fontaine, pour les fables, etc. Donc il a vraiment inspiré beaucoup, et il inspire encore des artistes, mais peut-être plus les 7e, 8e, 9e art aujourd'hui que l'histoire de la peinture plus traditionnelle.
C'est très frappant parce qu'il y a une illustration d'une forêt avec des arbres un peu humanoïdes, un peu vivants. Et j'avais jamais vu ce dessin. Et effectivement, quand on voit les Walt Disney, où il y a des forêts, où il y a des princesses, où les arbres bougent et les arbres rattrapent les personnages, on est exactement dans la scène de Gustave Doré.
Oui, mais ça, c'est une citation vraiment volontaire de Walt Disney à partir de... Ça, c'est une illustration de l'Enfer de Dante, qui est donc la première partie de la Divine Comédie, les arbres qui se transforment en être humain ou être humain transformé en arbre, on ne sait pas trop. Et il le reprend pour la première fois dans la forêt de Blanche-Neige, quand elle est perdue dans la forêt, que tout d'un coup, elle a l'impression que les arbres sont des personnages. Et ça va devenir un peu un pont. Ça va être repris par Tim Burton, enfin, voilà, ça devient très connu en fait, ensuite dans l'histoire du cinéma. Et c'est incroyable de se dire que Gustave Doré, il ne pouvait même pas imaginer ça parce qu'il est mort 10 ans avant l'invention du cinéma, donc on n'a aucune idée.
c'est aussi très frappant chez Méliès, et je trouve qu'il faut c'est intéressant de voir les deux à l'éclairage l'un de l'autre, parce que c'est vraiment Méliès est beaucoup, beaucoup dessiné par les techniques de cinéma de l'époque, hein. Mais évidemment, il a vu tout Gustave Doré. Alors, il y a une autre chose, moi, qui m'a frappé, parce que c'est aussi un thème qui m'intéresse beaucoup, sont les animaux. Oui. Alors, on connaît les animaux des Fables de La Fontaine, qui sont des animaux réalistes, relativement réalistes. Mais il y a aussi tout un bestiaire d'animaux fantastiques chez Gustave Doré, qui sont un ravissement à chaque fois qu'on tombe sur une illustration. On se dit, mais comment a-t-il inventé ça? Bon, évidemment, oui. Il a vu tous les grands peintres flamands, il a vu les peintres espagnols, il connaît tout ça, je pense, par cœur, ou très très bien. Mais il a une puissance d'imagination pour imaginer les bestioles, on va dire, qui est sans fin.
Oui, oui, et on sent qu'il a cette culture de l'Est. C'est-à-dire que si jamais il n'était pas né à Strasbourg et qu'il n'avait pas vécu ensuite à Bourg-en-Bresse, je pense qu'il n'aurait pas cette même culture germanique de Jérôme Bosch, de Bruegel, de ces petits monstres au XVIe siècle qui sont complètement fascinants, qui ont la tête sur les pieds, des œufs dans le dos, une cuillère sur un orteil. Enfin, vraiment, chez Bosch et chez Bruegel, c'est délirant, presque surréaliste avant l'heure, surréaliste au sens de André Breton et ses amis. Donc Gustave Doré, il reprend bien sûr cette tradition-là. Et on sent aussi qu'il a lu Shakespeare et qu'il aime l'univers, par exemple, du Songe d'une nuit d'été avec Titania et Bottom qui sont entourés par ces petits elfes et ces créatures qui s'appellent grains de moutarde, etc., et qui ont des ailes dans le dos, des bonnets, des clochettes. Et puis il y a une vraie tradition en Angleterre à ce moment-là aussi d'illustration un peu de féerie. Parce que nous, on n'a pas du tout en France, mais fin 19e, il commence à y avoir tout cet univers de petites fées avec des clochettes qui vivent dans des fleurs. Et ça va beaucoup se répandre dans le milieu anglo-saxon aussi aux États-Unis. Dans l'illustration d'abord, mais Gustave Doré, il est contemporain de ça. Et comme il va beaucoup en Angleterre, il ne fait pas seulement des séjours à Londres de quelques jours, il va s'y installer, il va voyager en Écosse, il va passer plusieurs semaines. Et ben, il connaît aussi cet univers-là de la féerie et il l'adapte en France. En France, c'est très peu connu. Donc mélangé à son propre imaginaire, ça fait un bestiaire fabuleux.
Oui, et on se dit en vous écoutant qu'on aurait aimé voir Alice au Pays des Merveilles illustrée par Gustave Doré.
Voilà, par exemple, exactement.
Ouais. Parce qu'on est vraiment dans cet inframonde où on passe de la surface à sous terre. Enfin, il y a tout ça chez Gustave Doré.
Oui, tout à fait.
Alors, il y a une chose.
Non, je pensais par exemple à l'illustrateur Arthur Rackham, qui est assez connu en Angleterre et qui, lui, est plus tardif que Gustave Doré, mais qui vient compléter cette tradition d'illustration fantastique qui ensuite est devenu très connu par le dessin animé. En fait, nous, en France, aujourd'hui, c'est un peu une boucle qui se fait, parce que, si vous voulez, Gustave Doré, il est au 19e, il va inspirer, et il va y avoir des échanges avec les Anglais. Ensuite, les Anglais, comme ils parlent anglais et qui sont liés aux États-Unis, ça va infuser la culture américaine. Et désormais, nous, on reçoit beaucoup de culture américaine. Donc, il y a une sorte de boucle de la France, un retour vers la France, mais via les pays anglo-saxons, quoi.
Mais ce qui est intéressant, là, je fais une petite digression, il y a en ce moment au musée de l'image à Épinal une exposition sur le grand graveur mexicain Posada. Et Posada, c'est aussi un illustrateur contemporain de Gustave Doré, mais bon, évidemment, au Mexique. Mais pareil, il a énormément fécondé notre imaginaire, et maintenant, c'est ce Posada qui est très collectionné aux États-Unis, qui a fécondé l'imaginaire de Disney actuellement avec tous les films sur la culture mexicaine. Et c'est intéressant de voir que cette culture populaire qui a plus d'une centaine d'années maintenant revient en force et en permanence sur tous les écrans.
Oui, puis nous, on oublie, je trouve, au XXIe siècle, à quel point la gravure, c'était un art qui était populaire et à quel point ça a influencé l'esthétique et l'inconscient collectif, parce que plus personne aujourd'hui pratique la gravure, où c'est très rare, ça devient presque un truc un peu d'artiste qui s'intéresse à des techniques anciennes, c'est pour des collectionneurs. Mais à l'époque, faire des livres illustrés comme Gustave Doré ou pratiquer la gravure comme Posada, c'était très bon marché, en fait. Enfin, c'était très diffusé et il y avait énormément de gens qui pouvaient acheter ces livres-là ou les emprunter ou se les faire prêter. Et du coup, ça a pétri des générations d'artistes, quoi. Vous disiez Méliès, c'est un homme de la fin du 19e, début 20e. Donc, pour lui, c'était facile de voir une édition du Baron de Munchausen de Gustave Doré, de la feuilleter et de reprendre la lune qui a une tête, chez Doré, c'est un soleil et ça devient une lune chez Méliès, mais c'est un visage et c'est quasiment une reprise, quoi. La gravure, c'était très populaire et très connu.
Il y a une autre chose que je connaissais pas, là, mais pas du tout chez Gustave Doré, c'est qu'il fait un livre qui est une espèce de reportage sur la vie londonienne. Donc là, on n'est plus du tout ni dans la littérature, ni dans le fantastique. C'est des choses très presque naturalistes. Mais même tout en étant naturaliste, il y a toujours un petit côté fantastique. Ces images de pauvres sont à la fois proches de Dickens, Mais en même temps, il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de choses qui rôdent un peu derrière ces foules d'enfants et de gens très modestes.
Oui, Gustave Doré, il ne peut pas s'empêcher d'être dans le romanesque. Et on comprend son amitié avec Théophile Gautier aussi, qui voit tout par le prisme du romanesque et du théâtre. Il était aussi critique de théâtre, Gautier. Et du coup, quand il part à Londres, c'est une commande. Il répond beaucoup à des commandes éditoriales aussi, Gustave Doré. Hein. Quand on est dans le milieu de l'édition, on n'est pas spécialement uniquement avec des œuvres qu'on a envie d'illustrer. On a aussi parfois des commandes et puis on les accepte ou pas. Donc il y a les deux chez Gustave Doré. Et il y a une grande tradition au 19e qu'on a un peu oubliée, qui est l'illustration de guides de voyage. Parce qu'il n'y a pas encore de guide du routard ou voilà, ce genre de choses. Et on fait des guides de voyage pour raconter aux gens ce qu'ils peuvent aller voir en Angleterre, les quartiers qui sont fréquentables ou pas, ce qui est intéressant à savoir sur la ville de Londres, par exemple. Il fait aussi ça pour les Pyrénées et le voyage en Espagne. Ce sont des guides de voyage illustrés. Et ce n'est pas seulement destiné à quelqu'un qui pourrait voyager, mais c'est aussi destiné à faire rêver quelqu'un qui ne va pas quitter sa maison, par exemple. Et chez Gustave Doré, du coup, il y a l'irruption toujours de la dramaturgie. Et donc, il met en scène comme un photographe qui retravaillerait ses photos et qui retoucherait les contrastes de noir et blanc pour qu'une ruelle sombre dans Londres paraisse tout d'un coup inquiétante, alors que finalement c'était juste le soir. Mais voilà, il va donner un aspect très emphatique. Les pauvres paraissent très misérables, les riches paraissent dans l'opulence la plus extrême, ce qui est inquiétant paraît sorti d'un, à nouveau on parle du cinéma, mais voilà, d'un film d'espionnage ou... et c'est vrai sinon que c'est très influencé par la littérature de Dickens, ça c'est sûr, hein. Il connaît ces livres là bien sûr.
Alix, je vous remercie parce qu'on a le temps passe, on est arrivé au bout de notre émission. Merci beaucoup pour ce moment passionnant passé avec moi pour parler de Gustave Doré. On pourrait encore en parler des heures et des heures. Surtout si on feuillette le livre et qu'on commente les images, qui sont toutes absolument plus sublimes les unes que les autres. Juste une dernière question. Dans le livre, je crois qu'il y a un peu plus de 300 illustrations.
Oui.
Combien a-t-il fait d'illustrations dans sa carrière ?
À peu près 10 000. C'est énorme. 10 000 illustrations de livres, c'est-à-dire des images gravées, reproduites dans des livres. Ensuite, il y a des dessins préparatoires, énormément. On est dans les 100 000 dessins préparatoires.
Est-ce qu'on a conservé ces dessins, ou une grande partie ?
Une grande partie, pas tout, hein. Mais oui, il y en a beaucoup qui sont conservés. Il y a beaucoup de choses qui sont au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, puisqu'il est strasbourgeois d'origine. Mais il y a aussi des choses qui sont dans des collections privées, bien sûr. Il y en a qui sont aux États-Unis aussi. En Angleterre, c'est très varié. Et bien sûr, à la Bibliothèque nationale de France, on a beaucoup de choses.
Alix, je vous remercie. Donc, je redonne les informations pour se procurer ce livre absolument merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est fantastique, Gustave Doré. C'est publié par les éditions du Chêne. Ça fait à peu près 480 pages, donc c'est un gros volume. Le prix, c'est 59,90 €, mais vu la qualité du livre, c'est quasiment offert, quoi. C'est une merveille absolue. Donc, vous avez, je vous rappelle votre nom, Alix Paré, et vous avez écrit ce livre avec Valérie Sueur-Hermel, qui fait une remarquable introduction sur les techniques de gravure. Moi, je ne connaissais pas forcément tout ça, et elle l'explique très, très bien, avec beaucoup de schémas, et on se rend compte, en lisant cette introduction, du travail absolument colossal que représentent les dessins de Gustave Doré, leurs gravures et leurs publications.
Oui, elle a fait un très, très beau travail pour la partie technique, c'est vraiment important.
Je vous remercie, Alix, et je vous dis à bientôt pour un autre livre aussi beau que celui-là.
J'espère. Merci, au revoir.